matin. Ouais. Alors, nous sommes dans la joie d'être devant vous et de présenter ce que le Seigneur nous a donné. Et ça va être merveilleux si nous allons être attentifs à sa voix. Alors, nous allons d'abord commencer par notre lecture qui se trouve en Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, le verset 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Et ça se trouve sur l'écran. Moi, j'ai cru que c'était ça. Donc, c'est comme ça que je n'aime pas maintenant aller avec ça. Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, à partir du 24e jusqu'au 27e verset. Si ça ne se trouvera pas là, nous pouvons chercher nos Bibles et puis lire. Parce que parfois, nous sommes trop dépendants de la technologie. Et qui parfois, beaucoup de fois, nous trahit. OK. Je peux commencer la lecture. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors, quand nous allons parler de Christ en vous, qui est notre thème, l'espérance de la gloire, je préférais mettre à la place de vous, nous, parce que Paul, qui a parlé au sein de Colossiens, cette parole s'applique à nous maintenant ce matin, parce que Dieu veut communiquer avec nous. Alors, notre thème est intitulé « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Prions. Seigneur, merci pour ta présence en nous et pour toute la révélation de tes glorieuses richesses dans la vie de chacun de nous ici présents. Seigneur, je prie que tu m'aides à communiquer ta parole à ton Église, l'oasis que tu aimes. Et je prie aussi au Seigneur que tu aides l'oasis, ton peuple, à tirer les vérités qui sont profitables pour elle, pour sa croissance. Aujourd'hui, au Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, avant que je puisse progresser dans la réflexion de ce passage que nous venons de lire, je voudrais d'abord que nous puissions, je vais présenter une illustration qui va nous aider à comprendre les vérités qui vont sortir dans ce passage. Et c'est une illustration que j'ai empruntée. Donc, je n'ai pas inventé ça, ça ne vient pas de moi-même, mais c'est avec ça. Donc, cette illustration concerne et en rapport avec Christ en nous. Et quand j'étais en train de voir ça, Christ en moi. Et tantôt on nous dit, il faut demeurer attaché en Christ. Et tantôt on nous dit aussi, Dieu est en nous. Dieu est en nous, Christ est en nous. Et maintenant, ce matin, notre passage où Paul, qui a parlé aux Colossiens, nous dit Christ en vous. Donc ce sont des vérités profondes qui doivent nous parler pour notre vie. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir ici? Quand j'ai vu cette illustration, je me suis dit, voilà, vraiment ça va avec moi parce que j'ai compris de quoi il s'agissait. Alors, moi, je me suis réalisé que j'étais moi ici. Et ça, ça c'est Christ, comme si ce n'est pas Christ, mais Christ, avec les richesses, l'eau qui se trouve ici, les richesses glorieuses qui nous sont promises quand nous sommes en Christ. Alors je me suis dit, et il dit, Paul a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et pour moi, j'ai compris que si je suis ici, il faut que je sois en Christ. Et quand je suis en Christ, je bénéficie de tout ce qui se trouve en Christ. Parce que maintenant, Christ m'enveloppe et Christ est en moi. Donc, je suis rempli de toutes les promesses de Dieu parce que Christ est en moi. Mais voyons encore, si par exemple, c'est moi ici et je suis fermé et les vérités sont là, les promesses sont là, l'invitation est là et je pense que c'est donné. Il a tout payé, il dit, mais je suis fermé. Alors la réalisation, même si on me pressait pour que je me plonge là, il n'y a rien qui va se produire en moi. Je sors, mais c'est parce que ça prend encore l'eau. Sinon, dedans, il n'y a absolument rien. Non? Et si maintenant, j'ouvre mon cœur et je dis, oui, Christ, tu es en moi, mais en moi, regarde. Oui, et maintenant, oui, je suis là. Si on pouvait faire l'expérience de prendre le même récipient qui est vide, qui va être plongé dans l'eau et sortir et prendre la quantité qui serait là, la quantité qui serait dans le récipient vide ne serait pas comparable au récipient qui a des histoires au-dedans de soi. Donc, ce sont des vérités. Je pense que c'est pourquoi Christ voulait nous donner ce que nous vivons pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Donc, le passage que nous venons de lire ici, c'est Paul qui l'a écrit. Et il a écrit aux Colossiens, au cours de sa première captivité, il était en prison en Rome dans les années 62-63, ça dure quand même. Et c'est parce que, pourquoi il avait une raison pour écrire, c'est que Epaphras, si vous lisez, vous continuez à lire à partir du premier verset, vous allez voir, Epaphras avait apporté des nouvelles sur l'état général de cette église de Colosse. Et l'église de Colosse était une ville, une petite ville de l'Asie mineure qui est dans la Turquie actuelle. Et mais nous lisons aussi Éphésiens. Il est dans 160 kilomètres à l'est d'Éphèse. Donc, nous voyons que quand nous lisons Colosse, quand nous lisons Éphésiens, ce sont des places qui ont existé parce que c'est l'histoire de la vie chrétienne. En écrivant cette lettre, Paul avait le souci de faire comprendre à ses saints et fidèles. Quand nous lisons au premier verset, Paul appelle le Colossien saint. À ses saints, des vérités fondamentales de leur foi et leur présenter la suprématie du Christ comme la tête de l'Église. C'est ça la vérité qui est là. Christ est la tête de l'Église. Et nous pouvons voir ça en Colossiens, au chapitre 1, le verset 19 et, 19 et 20. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi suivre, parce que c'est important que nous puissions nous baser sur la parole de Dieu, qui sont les vérités. Alors, ça se lit ainsi, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, donc qui est Jésus, qui est la tête de l'Église. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, réconcilier tout avec Jésus-Christ. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, donc tout, en faisant la paix. » C'est ce que ça cherchait, en faisant la paix. Par lui, donc la paix que nous pouvons obtenir, c'est seulement par Christ, par le sang de sa croix. Christ est la tête de l'Église. Donc, cette vérité, et si Christ est la tête de l'Église, Paul compare ses membres, toi et moi, à ceux qui ont cru en lui, donc ceux qui ont cru en Christ. Ce n'est pas n'importe qui, l'Église. Ceux qui l'ont reçu dans leur vie et sont été ensevelis avec lui et résistés avec lui par la foi, comme nous avons vu autrefois, et sont assis avec lui dans le lieu céleste. C'est magnifique. Ceci constitue, donc ce que nous venons de voir ici, ça constitue l'espérance de la gloire. Tout ça, ça constitue l'espérance de la gloire pour Paul. Et pour Paul, cette espérance de la gloire est un mystère. Un mystère, on ne peut pas l'expliquer. C'est Dieu seul qui a la réponse ou l'explication complète pour ça. Pour Paul, tout ça, c'est un mystère qui est caché de tout temps. C'était caché de tout temps, mais quand il est en train d'écrire aux Colossiens, Paul leur disait, mais ce mystère est révélé à vous maintenant, maintenant. Maintenant, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont accepté, parce qu'ils ont Christ en eux. Et Paul, voyant cela, que c'était la gloire. Alors, c'est ça notre réflexion de ce matin. Nous pouvons nous poser alors la question de savoir pourquoi cette révélation est un mystère ou consiste à un mystère ou constitue un mystère. Notre réflexion, nous allons partager notre réflexion en trois parties, souvent comme d'habitude, parce qu'on ne veut pas passer beaucoup de temps. Et notre première partie sera que Christ en nous, un mystère caché, comme il l'a dit. Christ en nous. Nous allons voir comment cela est un mystère caché. Christ en nous, un mystère révélé, Christ en nous, une révélation suffisante. C'est très important et soyons attentifs pour que nous puissions sortir avec la vérité selon nos besoins pour notre marche spirituelle. Alors maintenant, prenons le premier point qui est Christ en nous, un mystère caché. Et nous venons de voir ici, Christ en nous, que cela signifie? Un mystère caché. Donc, je suis contente que Jean-Pierre était venu ici parler des promesses de Dieu, parce que nous allons d'abord voir les promesses de Dieu en rapport avec ce mystère qui était caché. Alors, C'est toute la Bible. Toute la Bible démontre que pendant que l'humanité était sous l'emprise du mal, après la chute d'Adam et d'Ève, Dieu annonça à plusieurs reprises la résolution. Il a annoncé la résolution. Est-ce que vous êtes avec moi?
Oui.
Depuis le début là, ils ont péché. Mais dans son plan, Christ a annoncé la résolution de restaurer et de bénir l'humanité en lui. Et en envoyant un sauveur. Il avait déclaré qu'il y aura un sauveur qui viendra pour restaurer mon peuple, restaurer l'humanité. Et c'était caché. On ne les voyait pas et on va lire et on va comprendre comment c'était caché. Ce ne fut qu'après la résurrection de Christ que la nature de ce sauveur fut révélée. Comprenez-moi, n'est-ce pas? C'est seulement après la résurrection de Christ. Donc toute la Bible parle de ce mystère qui était caché. Alors commençons un peu à voir la promesse. En Genèse, Adam et Ève étaient sous la justice, châtiment de péché. Donc, Dieu avait déjà déclaré qu'ils étaient maudits, qu'ils allaient souffrir, qu'ils allaient être ainsi. Mais Adam et Ève n'avaient que la promesse qui leur donnait l'espoir. Il y avait une promesse qui donnait, excusez-moi, la promesse, c'était que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Allez lire ça à la maison, nous allons comprendre. C'est à partir de Genèse. Dieu est à l'œuvre. La restauration doit être réalisée. Et environ 2000 ans plus tard, Dieu adressa à Abraham son appel et lui promit que toutes les familles de la terre seraient bénies à sa postérité. Mais nous savons que le temps était écoulé. Et Abraham et Sarah vieillissaient déjà. Il n'y avait pas d'enfants. Et quand bien même Isaac, le fils de la promesse, est né et est mort pendant que seul un petit nombre tenait ferme la promesse de Dieu. Lui aussi, Isaac, l'enfant de la promesse, était mort sans la réalisation de voir ses sauveurs. Et nous continuons qu'à la mort de Jacob. Ça, c'est juste un survol. Nous n'allons pas prendre tout le personnage de la Bible pour voir comment Dieu était à l'œuvre, mais juste un survol. À la mort de Jacob, quand ses descendants furent appelés pour la première fois 12 tribus d'Israël, Dieu a reconnu ce peuple. Et eux auraient pu croire que l'attente de cette nation s'approchait de la réalisation. Mais tout espoir était évanoui et la promesse de Dieu semblait presque oubliée lorsque même nous voyons que ce peuple, connu par Dieu, était tenu en esclavage pendant longtemps en Égypte. Ah, c'est comme s'il n'y a que des échecs, comme si on ne voit pas la réalisation. Mais à quand? Toutefois, au temps fixé, Moïse, un grand libérateur par qui Dieu délivra Israël de la servitude vint. Cependant, avant d'entrer en Canaan, ce grand libérateur mourut. Et il déclara avant sa mort, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Il transmet la promesse aux autres. Et si nous continuons le parcours, c'est Josué, ensuite, dont le nom signifie d'ailleurs « libérateur et sauveur », Josué, libérateur et sauveur, qui devint le conducteur. Et sous sa direction, Israël triompha et conquit le pays promis par l'Alliance. Mais Josué mourit aussi. Il fallait attendre le règne de David et de Salomon pour que le royaume atteigne son apogée. Oh, on pouvait voir, oh, oh, Dieu est à l'œuvre. Oh oui, la promesse va être réalisée. Bien après, le déclin commence. Au lieu de voir la promesse accomplir, Israël perd ses conquêtes et alla en exil. Ça peut nous rappeler de notre marche de foi à Christ. Christ est à nous. Et ça, ça nous rappelle aussi de notre marche avec Christ. Mais au temps où naquit Jésus, plusieurs en Israël étaient dans l'attente du Messie, mais parce qu'ils attendaient ils s'attendaient à un Messie roi. Leurs yeux étaient en train de chercher un Messie roi au lieu du Messie souffrant. Ils ne les reconnurent point. Christ était déjà né. La promesse était déjà réalisée, mais on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le reconnaître parce que ce n'était pas encore le moment de la révélation. Et les premiers disciples eux-mêmes furent perplexés à la mort de Jésus. Tristement, ils se disaient, nous espérions que ce serait lui qui devrait délivrer Israël. Il ne pouvait donc pas comprendre avant d'avoir reçu la bénédiction de la Pentecôte. C'est avec la conversion de premiers païens avec Pierre et avec le ministère de Paul auprès des païens que le grand mystère caché si longtemps commença peu à peu à être révélé. Alléluia! Amen. Alléluia! Waouh! Wow. Dieu à l'œuvre dans ma vie, dans ta vie. Dieu est à l'œuvre. Et mes frères et sœurs, le temps de la révélation, c'est le temps de Dieu lui-même. Car la Bible nous dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le temps de Dieu était accompli. Et il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et ça, nous pouvons lire ça en Galates 4, 4. C'est comme si nous retournons maintenant à la promesse qui a été donnée à Ève, que c'est ta postérité. Et Jésus était né d'une femme. La bonne nouvelle est que ce mystère qui était caché de tout temps, ce mystère qui était caché de tout temps a été révélé ou est révélé aujourd'hui à nous. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous devons proclamer. Oui, c'était caché. Oui, c'était réalisé au temps de Pierre et Paul. Mais ce mystère qui a été caché a été aussi révélé à nous. Et lisons en Pierre, l'épître de Pierre, première épître de Pierre, pardon, chapitre 1, verset 12, 11 et 12, qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas? Beaucoup de lectures, mais c'est parce que nous avons besoin de ces vérités. 1 Pierre 1, verset 11 et 12. Les prophètes, je ne sais pas si nous sommes là, les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce qui vous a été révélée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Au verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. 12, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, aujourd'hui, qu'ils étaient le dispensateur de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est le message de Paul. Et Paul annonce que quand il dit en Colossiens chapitre 1, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère n'est pas resté caché. Ce mystère n'est pas resté caché. Et nous pouvons voir. Pouvons-nous poser alors la question de savoir quel est le contenu, alors, ce mystère. Quel est alors le contenu de ce mystère? Pour que nous puissions voir notre deuxième point qui est le mystère révélé. Ce mystère qui est révélé, quel est sa contenu? Pour moi, le mystère révélé en un mot est, je ne sais pas pour vous, quel est ce mystère qui est révélé? Christ en l'espérance, c'est ça le mystère. Révélé, Christ en moi, Christ en vous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce que nous lisons en Colossiens au chapitre 1, verset 27. C'est-à-dire, Christ habite en moi. Christ habite en vous, Christ habite en toi et en nous. Et cette présence de Christ en nous constitue l'espérance de la gloire. Mais alors, qui est ce Christ qui habite en nous? Parce qu'un mystère, on se pose seulement des questions pour savoir, pour qu'on soit révélé. Alors, lisons un peu Colossiens au chapitre 1, toujours, verset 15 jusqu'à 20. Qu'est-ce que ça nous dit, Christ? Parce que nous nous posons la question, alors, Christ qui habite en moi, qui est-il? Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'invisible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête, c'est pourquoi. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Wow! Christ en moi. Voilà le Christ qui est en moi. Qui est-il? Donc, si nous voulons comprendre qui est Christ que nous avons en nous, Nous devons seulement partir ou aller dans la parole pour que nous puissions comprendre. Parce que Paul est en train de donner ses vérités aux Colossiens parce qu'ils étaient tourmentés par des enseignements qui les dérangeaient, qui pourraient même détruire leur foi. Et maintenant, si Christ est celui que nous venons de lire, qui est en moi, que fait-il alors en moi? Que fait-il alors en vous? Et nous pouvons voir cela en Colossiens au chapitre 13. Christ en nous, si il est en moi, Christ qui est en moi, qui est révélé en moi, ce mystère caché, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia! Amen. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Je suis réconcilié. Il n'y a point de jugement en moi. Tout ce qui allait me condamner, Christ l'a payé. Et je suis libre. Alléluia. Amen. Et malgré la condamnation, malgré les regards, malgré ce que vous pouvez penser de moi, si Christ est en moi, moi, Lilette, mes chers, je suis dans le lieu haut. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous faire paraître, c'est ça l'œuvre de Christ. Quand il est à moi, Christ me fait paraître devant lui saint. On est saint. Amen. Comme lui-même est saint. Amen. Irrépréhensible. On ne peut pas me comprendre parfois. Et sans reproche devant Christ. Mais c'est une marche. C'est une marche. Il faut l'atteindre. Cela signifie que non seulement le Dieu de Dieu, le roi des rois habite en nous, en moi, en toi, mais le roi des rois, parce que c'est une marche, le roi des rois nous transforme et nous destine à manifester toute la plénitude de sa gloire. Donc, quand c'est Christ qui est en moi, qui veut me faire paraître sainte, il me voit sainte, irrépréhensible et sans reproche. Alors, cela signifie que le roi, ce roi des rois, me transforme de jour au jour. Et quand il me transforme, il ne voudrait pas que je puisse garder cette transformation en moi-même parce que les autres doivent voir ça en moi. C'est le témoignage. Amener la présence de Christ qui est en moi. Parce que si Christ est en moi, il va se manifester dans ma présence partout où je suis. Donc, Christ en moi arrive aussi avec une responsabilité, celle qui consiste à refléter la gloire de Dieu à la face du monde. Mais la bonne nouvelle, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Quand je me vois moi-même, je ne suis pas capable. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas sans assistance. Il ne nous laisse pas sans assistance. J'ai suivi la prière qui disait que quand je dis que je suis faible, je suis malade, je suis ici, je fais ça, Jésus sait. Jésus me comprend. C'est pourquoi il ne me laisse pas sans assistance parce que, comme nous venons de le voir dans le verset 22-23, C'est lui qui veut nous faire paraître, devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, il travaille aussi en nous, en nous transformant. Ce qui signifie tout ce que nous venons de dire, sans rides, donc pas de vieillesse. J'ai 61 ans, donc je commence à sentir maintenant la lourdeur de mon âge. Parfois, je me dis, oh, waouh, ça vient. Mais ici, Christ en nous, il n'y aura pas de rides. Waouh! Youh! Ni tâche. Et, mais il va nous représenter comme une épouse. C'est pourquoi Paul a dit ça, sans rides, sans quoi. Parce qu'il voulait maintenant parler de l'épouse comme une épouse parfaite destinée à son bien-aimé. Je prêche et je suis en train de regarder Jason Robert. Parce que c'est mon bien-aimé. Et nous sommes originaires avec Justin Robert, du même village, donc des villages proches. Et nous sommes du Congo-Kinshasa. Et pour arriver à ce village, il faut passer Boma, il faut passer Tchela pour arriver à Madouda. Nous sommes originaires de Madouda. C'est comme si ce que Paul a dit aux gens de Colosse, une petite ville, Madouda c'est grand, mais... C'est ça. Mais qu'est-ce qui est significatif en cela? Nous avons atteint, nous sommes allés aux mêmes écoles, primaires et secondaires. Nous avons chanté dans la même chorale pendant beaucoup d'années. Mais comme si ce mystère de mariage était caché entre nous deux. C'est comme si on... C'est comme si on ne se voit pas. Hello! Mystère caché. Mais, réellement, quand ce mystère a été révélé et que nous sommes tombés amoureux, nous deux, moi, je dois le dire, ça a changé la perspective de ma vie du présent et du futur. Je ne pouvais plus vivre comme je vivais. Il fallait tourner mon regard vers ce qui allait, le présent. Parce que si je fais bien dans le présent, ça allait déterminer le futur. Et nous sommes là avec la grâce du Seigneur. Je dois dire que nous faisons bien. Dans cette relation, la communion entre Justin Robert et moi. Ce n'est pas une image parfaite pour comparer l'amour que Christ a envers nous. Ce n'est pas parfait, mais je peux voir. Je suis l'épouse de Justin Robert. Je peux voir sa sympathie envers moi. Je peux voir sa douceur envers moi. Je peux voir son amour envers moi. Je peux voir tout ce qu'il peut faire pour moi. Et c'est là. Ça me donne la gloire dans ma vie parce que ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour... Mais la gloire, c'est quoi? C'est vivre dans la paix. C'est la sécurité. Et avec Christ, en rapport avec Christ, tout ceci nous est donné uniquement par la foi. C'est-à-dire, je dois dire à moi-même, je reçois le message du Seigneur. Et je dis, Seigneur, je crois que tu es présent, que tu m'aimes, que tu es mort pour moi. C'est pour moi ça, cette vérité. Quand j'étais en train de préparer ça, j'étais en train de voir que le Seigneur me parlait. Et quand même il manifestait cette illustration de ma relation avec Justin Robert, Je partageais avec ceux qui priaient avec moi le vendredi. Comment le message du Seigneur pouvait m'atteindre même dans ma vulnérabilité. Parce que le message de Christ m'a fait voir. Et toi, regarde, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Oh! Et je devais me regarder. Pas pour une humiliation, mais parce que le Seigneur se révèle en nous. Quand il nous parle, il pointe le point parfois que nous ne considérons pas. Et je parlais, je demandais la prière. Je voudrais m'engager pour que mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit bien, bien soigné. Pas pour que j'aille au ciel avec ce corps, mais ce sont des points aussi qui font manifester la gloire du Seigneur. Mais je dis merci à J.C. Robert parce qu'il n'a pas changé son amour envers moi. Il m'accompagne en tout. Ouais. Il est là. Et c'est Christ qui ne veut pas que nous soyons d'abord parfaits ou parfaites pour qu'il soit en communion avec nous. Mais il nous prend comme nous sommes. Il nous aime, il veut notre compagnon. Et puis, à partir de ce que nous sommes, il veut nous transformer parce qu'il voudrait que nous soyons comme lui. Le message est profond. Les vérités du Seigneur sont profondes. Qu'en fais-tu de ces vérités? Crois-tu que Christ est en toi, mais que la disponibilité de toutes les richesses sont là? C'est juste moi de croire. Mais aussi sans le Seigneur, nous ne pouvons pas. Donc, la vérité a été révélée en nous. Et cette vérité qui ont été révélées en nous, qui est notre troisième partie, qui va être aussi court, c'est une révélation suffisante. C'est court parce que nous venons de voir et nous comprenons déjà Christ en nous, qui il est, qui il fait en nous. Et notre réponse est de dire qu'il suffit pour moi. Pourquoi Paul pense-t-il que cette révélation est importante pour les Colossiens? Une révélation suffisante. La réponse est qu'il est informé de leur foi, qui n'est pas seulement informé de leur foi, mais il est aussi informé de leurs difficultés, de leurs souffrances. Cela dit, pour Paul, le Colossien n'avait pas besoin ni d'une connaissance secrète venant de la philosophie grecque, ni la justification par la foi ou le légalisme tel qu'enseignent les juifs que nous lisons dans la parole de Dieu. Tous ces dons ils avaient besoin, ils en avaient avec plénitude dans Christ. Mes chers frères et sœurs, nous avons tout en Christ. Nous avons tout en Christ. Ne cherchons pas le plaisir ailleurs. Ne cherchons pas le bonheur ailleurs. Ne cherchons pas ce qui satisfait ailleurs. Parce que Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire. C'est lui qui nous glorifie, qui glorifie notre corps, qui se glorifie même dans nos circonstances. Alors, que dit Paul aux Éphésiens pour nous fortifier, toi et moi? À cause de cela, Paul dit, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour qu'il a. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse l'amour de Christ qui est en nous, surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Christ en nous est la révélation d'un mystère caché de tout temps. Quel privilège! Christ en toi, tu as cette révélation. Christ en toi, Christ en nous, Christ en moi, nous ouvre les possibilités d'un développement illimité dans notre vie intérieure. Et Christ en nous change notre perspective sur Dieu même, sur nous-mêmes et sur les circonstances qui nous entourent. Avec le Christ en nous, nous avons une perspective de l'éternité. Une perspective de l'éternité sur le présent, ce que nous vivons maintenant. Ainsi, avec Paul, nous pouvons dire que je me réjouis de mes souffrances. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec le Christ en nous, nous ne sommes pas seulement, nous ne vivons pas seulement la gloire, mais nous serons, pas seulement la gloire, mais nous serons semblables à lui. Et Jean nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons ensemble avec lui. Et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Si nous comprenons cela, si nous disons amen à tout ceci, alors nous dirons quiconque a cette espérance. Si nous avons cette espérance que Christ nous amène la gloire, alors en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Donc, nous allons chercher, comme nous disons, à demeurer en Christ, à chercher Christ, à avoir cette soif avec Christ, que nous serons seulement suffisants si Christ vit réellement en nous. Et l'oasis sera l'oasis de tout le monde, parce que Christ, c'est lui qui vit à l'oasis. La manifestation se verra. Que Christ nous aide à comprendre cette réalité. Que Christ nous aide à vivre cette réalité. Que Christ nous aide à puiser à ses richesses pour que notre vie puisse être glorieuse et que notre marche dans cette vie soit la représentation de cette gloire dans ce monde. Et c'est dans le nom de Christ que je termine ce message. Amen.